20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, et il violoncello suono, tel est le titre de ce bel album publié par Mirard, qui nous plonge dans l'Italie du début du XVIIIe siècle, l'Italie populaire, comme celle des palais, alors qu'émerge un nouvel instrument soliste, le violoncelle. Un album coloré que l'on doit à la violoncelliste Anna Salzenstein, qui elle aussi s'émancipe de l'ensemble Le Consort dont elle est membre pour développer ses qualités de soliste, Anna Salzenstein, qui sera à cette occasion à notre micro ce soir. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical, des nouvelles aux accents nordiques, scandinaves ce soir, ceux de Grieg tout d'abord, dont la musique de scène Peer Gynt fait l'objet d'un spectacle à découvrir mercredi et jeudi à l'Opéra de Limoges, la reprise d'un spectacle créé en 2017 qui avait connu un vif succès autour de cette fable racontant les aventures tragicomiques d'un anti-héros qui tente de trouver un sens à son existence. Avec ici sur scène trois comédiens et trois chanteurs, le baryton Philippe Estève, la soprano Norma Naoum et la mezzo-soprano Marie Kalinin, ainsi que le chœur et l'orchestre symphonique de l'Opéra de Limoges, sous la direction de Pavel Belev, dans une mise en scène de Jean-Philippe Clarac et Olivier Deleuil. Très belle mise en scène dans laquelle les chemins suivis par le fantasque Peer Gynt sont tracés par les musiciens de l'orchestre. Après Grieg, le Norvégien, Sibelius, le Finlandais, et un nouveau volume de cette formidable intégrale des symphonies de Sibelius par Santtu Matthias Rauvali avec l'orchestre symphonique de Göteborg pour le label Alpha. Un nouveau volume qui vient donc de paraître et devrait très probablement faire l'objet d'un trophée Radio Classique, avec au programme la 4e symphonie, l'une des plus sombres de Sibelius, associée à quelques pièces orchestrales également assez sombres, comme la célèbre Valse triste ou la plus rare Nymphe des bois. Nymphe des bois, poème symphonique inspiré d'un poème suédois dans lequel plane également le visage angoissant de la mort, associé ici au plaisir charnel de mystérieuses créatures de la forêt. Un extrait du poème symphonique « La nymphe des bois » de Sibelius par l'Orchestre symphonique de Göteborg, sous la direction de Santtu Matthias Rauvali, un extrait du nouveau volume de cette intégrale Sibelius, avec laquelle on se délecte sur Radio Classique, un volume mettant également à l'honneur la 4e symphonie du compositeur finlandais.
L'Or Maison sur Radio Classique.
On la connaît en tant que membre de l'ensemble Le Consort. Elle s'est également distinguée récemment au disque avec Théotime Langlois de Swart et Fiona Matto dans un bel album dédié à Schumann. La violoncelliste Anna Salzenstein vient d'enregistrer son premier album en solo, album sorti en numérique et qui fera l'objet d'une publication physique au mois de février. Un magnifique album regorgeant de couleurs, d'émotions et de contrastes, évoquant l'émancipation du violoncelle en Italie au début du XVIIIe siècle. Un album dans lequel nous allons nous plonger avec Anna Salzenstein, qui est notre invitée ce soir. Bonsoir.
Bonsoir Laure.
Alors votre violoncelle dans cet album, il chante, il murmure, il danse, il nous étourdit aussi de virtuosité. Il incarne toutes les facettes de l'âme, tous les affects. C'était votre projet justement.
Oui, tout à fait. C'est une période de l'histoire du violoncelle qui m'intéresse parce que c'est justement le moment où il commence un petit peu à faire entendre son timbre et à la fois en conservant le côté expressif, mélancolique et grave. Et en même temps en développant voilà, la vivacité avec la virtuosité d'Archet qui emprunte beaucoup de la technique du violon. Cette espèce d'éclosion comme ça dans un répertoire que je trouve qui me touche beaucoup. J'avais vraiment envie de faire découvrir le violoncelle de cette manière à travers toujours la vocalité, le chant, l'expressivité.
En fin de compte, un violoncelle très humain, puisque votre violoncelle, il est plein de tendresse, il est plein d'exaltation. On va évoquer justement cette naissance du violoncelle en tant qu'instrument soliste, mais dans la construction de votre programme, on a l'impression, avec tous ces contrastes, ce mélange de joie et de nostalgie, que vous avez pensé à une sorte de trame.
Oui, c'est-à-dire que je voulais à la fois évoquer les origines populaires du violoncelle, donc avec les petites pièces de Rouveau, qui étaient en composition napolitain. Il y a eu une école de violoncelle à Naples d'ailleurs assez développée, mais l'idée c'était le côté violoncelle de rue avec la dimension plus rustique du violoncelle et en même temps des pièces beaucoup plus méditatives comme les Caprices d'Alabaco, des pièces plus virtuoses. Enfin, je voulais vraiment qu'il n'y ait pas un côté répétitif, redondant dans le choix des pièces et puis aussi dans le choix des instrumentations. On a cherché beaucoup de variétés. On s'est beaucoup amusé pendant l'enregistrement à tester des choses avec les musiciens incroyables avec qui j'ai pu jouer, qui se sont investis avec moi. C'était vraiment un moment très spécial et très émouvant. Et donc, je suis contente que ça se ressente dans le résultat final.
On ne s'ennuie pas du tout quand on écoute votre album d'une traite. Alors, il s'ouvre, Anna Salzenstein, avec une pépite, une aria da suonare de Giulio Taglietti. On a l'impression que cette pièce, elle a été écrite pour la voix.
Ah bah oui, c'est en fait d'ailleurs la forme aria da capo. A priori, ça vient plutôt des pièces vocales. J'ai lu, parce que Giulio Taglietti, il y a assez peu de documentation sur lui. J'ai lu qu'il avait publié ce recueil d'aria da suonare qui est assez rare d'avoir une forme comme ça instrumentale quoi. Donc voilà, il y a un recueil, j'en ai choisi une parce que je pouvais pas tout enregistrer.
Merveilleux.
Et c'est un peu en écho au titre du disque aussi évidemment. Thank you.
Cette aria da suonare est pleine de douceur, pleine de tendresse de Giulio Taglietti, figure au programme de cet album d'Anna Salzenstein, un album que nous découvrons ce soir sur Radio Classique avec Anna Salzenstein. On vous écoutait ici avec le luthiste Thibaut Roussel, vous êtes également accompagné par vos collègues du consort. C'était important de les associer à votre premier album en solo?
C'était très naturel surtout, parce que... Par exemple, la sonate de Vivaldi, RV40, que j'ai enregistrée dans le disque avec Justin, on la joue souvent en concert. Il y a d'ailleurs le premier mouvement dans l'avant-dernier disque instrumental Specchio Veneziano. Donc, je me voyais pas jouer quelqu'un d'autre que lui. Et puis, la pièce avec violon, c'était pas complètement prévu à la base, mais je trouvais ça important d'associer le violon au disque en tant que modèle du violoncelle. Et donc, évidemment, après, j'ai pensé à toi, Tim, parce qu'on joue ensemble, c'est ça, un musicien merveilleux. J'ai beaucoup de chance, mais c'était aussi très, très naturel.
Alors ce programme, il raconte l'émancipation du violoncelle au début du XVIIIe siècle. Le violoncelle qui était plutôt jusqu'alors associé au continuo, il devient soliste. Oui. Comment est-ce que cela se passe grâce à des musiciens en particulier?
Oui, alors il y a des violoncellistes qui émergent un peu en Italie. Il y a d'abord l'école de Bologne à la fin du XVIIe siècle. Et ensuite, il y a des solistes un peu qui commencent à émerger, notamment... Alborea, qui était assez connu à l'époque. Il y a aussi Costanzi, un petit peu plus tard. Et voilà, on raconte que Jean-Baptiste Barrière, qui est un des premiers violoncellistes à avoir écrit vraiment des sonates dans le style italien, aurait étudié avec des violoncellistes italiens. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est ensuite répandu. Les musiciens italiens ont voyagé un petit peu dans toutes les cours d'Europe. Par exemple, Vivaldi qui est mort à Vienne, Plati qui est présent dans le disque aussi, qui était dans une cour en Allemagne dont j'ai oublié le nom. Il y a beaucoup de musiciens qui se sont intéressés à cet instrument, qui aussi jouaient un peu viol de gambe et violoncelle, qui passent un petit peu de l'un à l'autre, et puis au fur et à mesure, ça s'est fait assez naturellement, plutôt quand même étalé dans le temps, jusqu'à l'apparition de grands virtuoses en France, notamment comme les frères Duport, Bréval, puis la création du conservatoire, etc., l'école française du violoncelle, mais disons qu'il y avait tout un berceau comme ça de
grands virtuoses.
De grands virtuoses, avec Boccherini, après pas en France, mais en Italie, avec l'apparition de la technique du pouce et tout. Mais là, ça, c'est un peu plus dans le style galant. Et c'est peut-être pour des prochains projets, mais là, c'est pas exactement la même chose.
Grâce à ces musiciens, grâce à ces virtuoses, oui. Le violoncelle prouve qu'il peut être justement virtuose et oui. qu'il peut chanter. Des compositeurs lui dédient des œuvres, et notamment Vivaldi. Il a beaucoup contribué à l'émancipation du violoncelle, puisqu'il lui a dédié combien de concertos? Plusieurs dizaines, quarantaine, je dirais.
Bah, il y en a, oui. Et puis il y en a aussi qui sont plus difficiles à trouver. Enfin, je sais qu'il y en a qui sont édités, il y en a qui sont moins. Il y a aussi un double concerto que j'ai joué il y a pas très longtemps. Et puis il y a des sonates aussi, et il y a des pièces, justement des sonates en trio pour violoncelle et basse continue, ce qui est assez peu courant. Je trouve que dans l'œuvre de Vivaldi, on sent qu'il n'a pas voulu imiter le violon, et il a vraiment mis en valeur le timbre du violoncelle, notamment dans les mouvements lents. Il y a toujours des thèmes très instrumentaux, très très bien écrits pour violoncelle, et du coup qui font ressortir quand même les spécificités du timbre de cet instrument, et pas seulement une sorte de copier-coller de la technique du violon. Et ça, du coup, ça met vraiment en valeur, et c'est très très agréable à jouer. Enfin voilà, c'est toujours magique.
Alors, vous avez mis à l'honneur plusieurs compositeurs dans cet album, Anna Salzenstein, donc Vivaldi, puis d'autres beaucoup moins connus, parmi eux Gasparo Caravaglia, dont vous avez découvert une sonate pour violon.
Oui, alors en fait, j'ai appelé mon ancien professeur Christophe Coin. Il m'a donné le nom d'une maison d'édition en Italie qui s'appelle Musedita. Et donc, je suis allée sur le site, et puis j'ai commandé plein de musique. Et parmi toutes ces partitions, il y avait cette sonate que j'ai découverte, que j'ai trouvée absolument sublime et très spéciale dans la façon dont c'était écrit, même si évidemment il y a une gigue, il y a un mouvement lent, etc. Mais très particulier. Après, il n'est pas très connu, il n'a pas énormément écrit. Il était à la cathédrale de Forlì Donc il était pas, je sais pas s'il cherchait particulièrement la lumière, mais je suis contente d'avoir mis en lumière cette sonate en tout cas, parce que voilà, et elle a beaucoup aussi plu à Justin et Thibault, donc voilà, c'était génial.
Du bonheur.
Ouais.
Du bonheur à écouter, à découvrir aussi, tout comme les Caprices de Dallabacco, Giuseppe Maria Dallabacco, qui est le fils de Felice Dallabacco, dont on connaît quelques concertos con molti strumenti, des pièces pour violoncelle seule qui soient à peu près contemporaines de celles de Bach.
Oui, c'est un tout petit peu plus tardif que les autres pièces, effectivement. Le deuxième caprice en ré mineur me fait vraiment penser au prélude de la deuxième suite de Jean-Sébastien Bach. D'ailleurs, pendant l'enregistrement, avant de commencer, j'ai joué un petit bout du prélude pour me mettre vraiment dans l'atmosphère. Donc ce sont des pièces pour violoncelle seule, des caprices. On a assez peu d'informations sur quand elles ont été écrites. Il y a un manuscrit qui a été retrouvé avec certaines fautes, mais c'est des pièces caprices. Normalement, c'est une forme qui fait penser aux caprices de Paganini, assez virtuose et tout ça. Et puis là, moi je les sens vraiment très méditatives, assez lentes. Celles-ci, parce qu'il y en a d'autres qui sont plus rapides. J'ai pris les mineures parce que c'est peut-être mon goût pour la musique mineure, mais voilà, pour moi, elles sont très méditatives, très introspectives, et voilà, la do mineure notamment, c'est celle qui est la plus grave, avec cette espèce d'ambitus très grand entre la corde de do et puis la corde de la. On va vraiment chercher tout le registre, et il y a une construction très claire de la pièce, avec un climax, etc. Enfin bon, elle est assez dramatique, ouais. Et je me souviens que les quelques fois, parce que j'ai joué cette pièce assez souvent en concert, et c'est vrai qu'elle a toujours marqué. Je sais que mes parents, ils adorent cette pièce, par exemple.
Ben moi aussi.
donc ça me tenait à cœur de l'enregistrer, de la faire découvrir.
Thank you.
Le Capriccio en do mineur de Giuseppe Maria Dall'Abaco, un nouvel extrait de ce superbe album intitulé « Il violoncello suono », album d'Anna Salzenstein qui est notre invitée ce soir sur Radio Classique, donc une page plutôt contemplative au sein de ce programme qui met à l'honneur finalement des œuvres au caractère assez contrasté. Il y a quelques accents populaires avec notamment « D'irrésistibles danses » de Giulio de Ruvio qui nous transporte jusqu'à Naples, et puis il y a des pages virtuoses composées par Vivaldi ou Caravaglia que l'on évoquait, qui vont très loin justement dans la virtuosité. C'est votre premier album en solo avec vos collègues du consort, des partenaires avec lesquels vous aimez partager finalement des aventures assez variées, puisqu'avec Théotime Langlois de Swart, vous avez enregistré Schumann récemment. Vous naviguez entre la musique baroque et la musique romantique.
Disons que... on aime bien raconter un peu des histoires dans un album, saisir un peu l'essence d'un moment. Pour le Salon Schumann, c'est vrai que c'était un moment très particulier d'intimité au sein du couple, etc., de rencontre avec d'autres musiciens. Après, aussi, l'autre point commun, c'est une forme de recherche de sonorité historique, puisqu'il y avait quand même le piano ancien, les cordes en boyau, etc. Donc, c'est pas complètement anodin. On a quand même ce goût de transporter un petit peu à travers le son et à travers le choix des pièces et des programmes l'auditeur dans un moment, dans une bulle, et de raconter un petit peu une histoire et de faire entendre ce qui nous touche aussi dans cette musique, d'essayer de trouver l'équilibre entre les pièces et puis la manière qu'on a nous de les transmettre.
Comme voilà. Vous le faites en concert d'ailleurs, quand vous êtes en concert avec le consort, il y a un côté très vivant, très communicatif aussi avec le public. Vous parlez au public, vous jouez en vous jetant des regards avec une grande complicité. Enfin, il y a quelque chose d'assez particulier et très chaleureux.
C'est vrai que dans la musique baroque, il y a cette possibilité, voilà, d'improviser. On se fait des petites surprises, quoi. Ouais. Donc c'est aussi souvent les sourires ils viennent de là, de petits rajouts. Voilà, il y a toujours des petites surprises, des petites choses auxquelles on s'attend pas et on reste très à l'écoute les uns des autres. Donc ça nous amuse. Et puis c'est aussi une manière de, je vais pas dire de décompresser, mais oui, de quand on arrive sur scène, on est toujours évidemment, on a un petit peu le cœur qui bat. Voilà, on a envie de que ça se passe très bien et on est très concentré. Et puis au fur et à mesure, on relâche un petit peu la pression à travers le jeu et à travers justement aussi la manière de communiquer avec le public. Quand on sent le public réceptif, nous ça nous détend aussi. Et on se lâche encore plus. Et c'est pour ça que c'est exponentiel au fur et à mesure du concert. Ça finit en les bis. On est totalement en général, voilà.
C'est une fête, hein, les concerts du consort. Et vous ferez la fête avec vos partenaires, Anna Salzenstein, le 31 janvier à Gavot. Adèle Charvet participera également à ce programme, à ce concert dédié à Vivaldi. Vous jouerez des pièces de cet album?
Non, le 31 janvier, non. Mais en revanche, à la fin de journée, les 1er et 2 février, il y a deux concerts consacrés à ce programme. Je pense qu'il y aura aussi des séances de dédicace pour le disque. Et puis, en attendant la sortie physique le 23 février, ce sera l'occasion de jouer ce programme avec heureusement tout le monde était disponible pour jouer sur ces dates, donc ce sera exactement l'équipe de l'enregistrement, donc je suis super contente.
Voilà, donc à la folle journée juste avant le 31 janvier, donc à la salle Gavot avec le consort, et puis il y aura d'autres rendez-vous pour vous cette saison. Anna Salzenstein, vous jouerez notamment en mois d'avril avec Paul Gientara et Vassili Chmikov de la musique de Beethoven et de Dornani, et puis une création de Benjamin Atayer, puisque vous jouez de la musique baroque, de la musique romantique et de la musique contemporaine.
Oui, je fais pas beaucoup de musique contemporaine, mais c'est vrai que je rejoins de temps en temps l'ensemble Les Illuminations pour certains projets, dont ce projet-là. On a déjà fait la création en mai dernier avec Justine Métral, Aurélie Alexandre Dalbron et Raquel Camarinha. Donc c'est une très belle pièce, assez significative, assez ancrée dans le monde réel. Pour le coup, on est un peu loin de l'aspect méditatif des Caprices d'Alabaco, mais c'est aussi c'est ça qui est très intéressant dans le métier de musicien.
Et ben oui, c'est de varier les plaisirs. Merci infiniment Anna Salzenstein. On va se quitter avec un nouvel extrait de cet album. On va vous écouter jouer, dialoguer, chanter avec Théotime Langlois de Swart dans cette sonate d'Antonio Vivaldi qui met en avant en soliste le violon et le violoncelle. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Des extraits de la sonate en trio RV 820 de Vivaldi par la violoncelliste Anna Salzenstein, le violoniste Théotime Langlois de Swart et leur complice du consort. Ils seront, je vous le rappelle, en concert mercredi soir à Gavot, mais aussi le 2 février à Arras et le 3 à Tourcoing. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du chef d'orchestre Jérémy Rohrer. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.